Ce matin, je vais commencer une nouvelle série de messages. Donc, j'en ai fini avec le message thématique dans l'épître de Jacques. Et là, donc, j'aborde toute une nouvelle série de messages sur le livre de Daniel. Alors, pour introduire le message de ce matin, j'aimerais commencer par un texte de l'écriture. Donc, c'est en Jean 17, versets 15 à 16, qui dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, j'ai noté que l'équation n'est pas simple à résoudre. Comment être dans le monde sans être du monde? Voilà l'équation à résoudre. Daniel, un haut fonctionnaire juif à Babylone, qui face à maintes difficultés et dangers dans un monde hostile, est resté fidèle à Dieu pendant des années et à qui Dieu est resté fidèle. Nous commencerons par regarder ensemble ce matin le contexte dans lequel Daniel s'est retrouvé à Babylone, avant donc de développer tout mon message. Je vais donc vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le premier chapitre du livre de Daniel. On n'a pas toujours les mêmes versions, donc je pense que c'est bien que chacun puisse suivre dans sa Bible, donc le texte, Daniel, chapitre 1, nous commencerons par lire les versets 1 à 7, avant de terminer tout le chapitre. Si vous avez trouvé, je commence la lecture. La troisième année du règne de Josaquim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Josaquim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses ennemis, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Miskaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Voilà la première partie, donc, du chapitre. Mon message, ce matin, s'intitule « Être dans le monde sans être du monde. Comment et pourquoi ?» D'abord, comme je l'ai indiqué, qu'en est-il du contexte de la déportation à Babylone? On l'a lu, donc, dans les versets 1 à 2 du chapitre. Verset 1. La troisième année du règne de Josaphim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Cette première attaque, en fait, est intervenue en l'an 605, 8 ans avant une seconde attaque et une deuxième déportation en 592 et presque 20 ans avant la chute finale de Jérusalem et la déportation de milliers de Juifs de Juda en 586. Ces textes sont rapportés dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre 24, dans 2 Chroniques, au chapitre 36, et dans le livre de Jérémie, dans tous les chapitres 52. Voilà un peu le contexte, donc, de cette déportation. Verset 2, il nous est rappelé ceci. Le Seigneur livra entre ses mains Josaphim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Ça semble étrange. À première lecture, il s'agit bien des ustensiles du temple de Dieu que le Seigneur livra ainsi. Et pire, savoir que Shinéar, c'est le site de la tour de Babel. Et ça, on le lit en Genèse 11, de verset 1 à 9. Tour de Babel, le symbole même de l'opposition à Dieu, qui a été à nouveau rapporté par Zacharie au chapitre 5, et au verset 1. C'est tout de même surprenant. Le temple de Dieu, pillé par un idolâtre, Nebuchadnezzar, pour aller constituer son trésor dans un temple idolâtre. La tour de Babel, à Shinéar. La première lecture, c'est quand même étonnant de voir comment les choses se sont ainsi déroulées. J'ai noté pourquoi Dieu aurait-il laissé faire. Nous en avons la réponse dans l'Écriture. La défaite de Juda a même été annoncée d'avance. Rendez-vous compte? Et ceci, on le voit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 39, donc des versets 6 à 7. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Des eunuques, des serviteurs. Dieu l'avait annoncé d'avance. Mais pourquoi? Parce qu'Israël a fait la sourde oreille aux avertissements de Dieu. Là aussi, c'est rapporté dans l'Écriture, en Jérémie 25, au chapitre 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Que dire ces prophètes? En l'occurrence, il s'agit de Jérémie, Habacuc et Sophonie, qui d'ailleurs étaient contemporains de Daniel. Nous lisons en Jérémie 25, verset 5, « Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. » Voyez-vous, Dieu est fidèle, comme on l'a vu tout à l'heure. Le pays où coule le lait et le miel, qu'il a promis à Abraham, Dieu ne se réunit point. Il est fidèle. Et il avait annoncé, clairement, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez, vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. La science de Dieu est bonne. D'éternité en éternité, et nous attendons la Jérusalem céleste, la ville éternelle, d'éternité en éternité. La conclusion de cette attitude, elle est implacable. C'est que lorsque Dieu parle, même toutefois, et que l'on refuse de l'écouter, les conséquences sont souvent désastreuses. Désastreuse. Après, donc, le contexte de la déportation, voyons maintenant ce qu'il en a été de la vie en déportation. Et ceci commence dès les versets 3 à 7 que nous venons de lire, et nous poursuivrons avec les versets 8 jusqu'à la fin du chapitre. Et regardons déjà ces premiers versets. La vie en déportation. Versets 3 à 4. Le roi donna l'ordre d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, beaux, de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. L'ordre du roi. Clairement, le roi fit le choix du jeune, beau et talentueux. Ce n'est pas de façon fortuite. Il en avait des raisons. Mais lesquelles? La première, en tant qu'ennemi, c'est bien sûr d'affaiblir le royaume de Juda, une nation privée de ses forces vives. Première des stratégies, la seconde, évidemment, c'est d'enrichir son empire de leurs compétences. Que pouvait-il en tirer de ses compétences? Certes, leur déportation, elle met fin à leur carrière à la cour royale de Jérusalem, mais en réalité, ils seront l'objet d'un brillant avenir à Babylone. Et nous le verrons. Étonnamment, c'est ce que Jérémie prophétisa. chapitre 27, pardon, 29 au verset 7, il dit ceci, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. C'est la science de Dieu. Même en captivité, ne soyez pas rebelles. Quelle instruction! Alors, comment travailler au bien de Babylone, ville idolâtre, tout en restant fidèle à Dieu? Là était l'équation. Comment être en immersion dans une culture idolâtre sans déroger au commandement de Dieu, tout au moins le premier? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Comment ne pas déroger à ce commandement, étant en déportation, étant d'autres? Le problème est le même aujourd'hui pour le chrétien dans un monde où la foi, les valeurs et la moralité chrétienne sont de plus en plus rejetées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste. Et d'ajouter, tout est vanité et poursuite du vent. Comment être dans le monde sans être du monde? La suite du texte nous rappelle combien marcher à contre-courant du monde peut être difficile ou même dangereux. La suite du texte nous rappelle combien Dieu peut honorer la fidélité des croyants. Verset 5. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. En apparence, tout semble normal. Après tout, manger les mets du roi, n'est-ce pas un privilège? Être à la table du roi. Intervient alors un changement d'identité des 4 jeunes juifs qui, désormais, porteront des noms babyloniens, évoquant des dieux babyloniens censés avoir triomphé sur l'Éternel. Changement d'identité. Verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms. Exemple de nom, Daniel, qui signifie en hébreu « Dieu est mon juge », devient Belshazzar, le prince de Bel, principal dieu des Babyloniens. Un lavage de cerveau en préparation, un changement identitaire. Il en est de même pour les 3 autres compagnons de Daniel. Toujours des noms en relation avec des dieux babyloniens. Dieu est mon juge. Eh ben non, tu t'appelleras le prince de Bel. Un lavage de cerveau minutieusement préparé pour transformer ces jeunes juifs promis à un avenir radieux dans la cour de Jérusalem. Voilà la stratégie de Nebuchadnezzar. Un lavage de cerveau. Tous autant que nous sommes, nous avons des prénoms et on sait d'où viennent nos prénoms. Donc, ça fait partie de notre identité. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, on vous donne un autre nom. Et en plus, un décalage total par rapport à vos convictions religieuses. Ça peut être traumatisant. La vie humaine. On verra comment Dieu va agir dans la vie de ces jeunes juifs. Ne pas oublier que c'était des ados. Daniel avait une quinzaine d'années. Et voilà comment ils ont été préparés, conditionnés, donc par les Babyloniens. J'ai noté, Daniel et ses compagnons acceptent sans protester de recevoir, premièrement, une formation nouvelle et deuxièmement, de nouveaux noms, quoique tous deux contraire à leurs convictions religieuses. Voilà le premier acte que Daniel et ses compagnons ont posé. Ils ont accepté, sans protester. Mais qu'en est-il des mets du roi? C'était une des règles qu'avait fixé le roi. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans la suite, donc du chapitre, donc des versets 8 à 21, que je lis, si vous avez trouvé, Daniel chapitre 1, 8 à 21. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, d'Iscaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point et tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et les sagesses, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors, toujours dans le cadre de la vie en déportation, maintenant nous examinons les versets 8 à 21. Verset 8. Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Pourquoi Daniel choisit-il de ne manger que des légumes et de boire de l'eau? Pourquoi? On peut s'interroger. La question est légitime. S'il y avait un risque de souillure, probablement que la viande et les légumes avaient été offerts aux idoles. Et Paul nous en donne l'avertissement ici, dans sa première épître aux Corinthiens, dans les chapitres 8 et 10, ou que la viande était issue d'animaux impurs. On peut aussi objecter dans ce sens, en référence donc au texte du Lévitique, dans le chapitre 11. Daniel, c'est ce qu'il a dit. Il n'avait pas l'intention de se souiller. Et voici les textes de l'Écriture qui peuvent expliquer probablement la raison du choix de Daniel. Quoi qu'il en soit, comment mettre en pratique cette résolution périlleuse? On l'a vu, le chef des eunuques risquait sa tête. Comment mettre en pratique cette résolution? C'est avec courtoisie et sagesse que Daniel demande au chef du personnel la permission de s'en abstenir. Courtoisie, tact, sagesse. Il en fait la demande. Daniel a-t-il été touché par la demande? Pardon, Dieu a-t-il été touché par la demande de Daniel? Et comment? C'est ce que nous verrons. Dieu a été touché par sa demande de 4 manières. La première, on la voit dans les versets 9 à 10. Dieu fit trouver à Daniel faveur. Clairement. Et grâce. Faveur et grâce. Devant le chef des eunuques, ce dernier dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ?» C'est Dieu lui-même qui fit trouver grâce à Daniel. Dieu accorde à Daniel la faveur du chef du personnel et dispose même ce dernier à répondre favorable. Extraordinaire. Si ce n'était qu'en enfreignant les ordres du roi, il risquait certainement de perdre sa tête. Alors, tout aussi compréhensif, Daniel fait de nouveau preuve de tact et de sagesse. Versets 11 à 13. Alors, Daniel dit à l'intendant, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des autres jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alors j'ai noté quel tact et quelle patience. Souvenons-nous, ce sont des adolescents, 15 ans. Quelle patience! Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu en 10 jours. Je sais pas vous, mais moi je prends pas des kilos en 10 jours. En m'abstenant de manger de la viande. Que les légumes et de l'eau. C'est pas des patates. Voilà, justement. Alors, ce que je voulais relever ici, c'est l'extraordinaire confiance que ces adolescents avaient en Dieu. Et éprouve-nous dans 10 jours et tu verras. C'est extraordinaire quand même. J'ai noté que la sagesse de Daniel consiste à montrer autant de compréhension envers son supérieur hiérarchique que ce dernier envers lui, car en effet, il n'y a aucune raison que celui-ci paye de sa vie la fidélité à ses convictions religieuses. Quelle sagesse, quel tact. Aucune raison, il a aussi le droit de dire, même si je vais être fidèle à mon Dieu. Quelle suite le chef du personnel donne-t-il à cette requête? Bien sûr, par la grâce de Dieu. C'est le deuxième point que nous examinons, la manière dont Dieu est intervenu. Verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. N'était pas obligé d'accepter. Mais Dieu agit dans le cœur de cet intendant. Troisième manifestation de la grâce de Dieu, c'est dans les versets 15 à 16. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. La Bible ne nous dit pas ce que l'intendant en faisait, mais nous pourrions être certains qu'il devait être ravi de repartir avec les mets du roi. Même si un régime végétarien convient à certains, le fait que tous aient pris du poids après 10 jours de ce régime différent suggère que Dieu a récompensé miraculeusement la fidélité de Daniel et ses amis. Du reste, les seuls parmi les jeunes juifs à avoir décliné les mets du roi, Daniel et ses compagnons. J'ai noté que la fidélité de Dieu envers Daniel et ses trois amis lors de cette première prise, lors de cette première mise à l'épreuve, va les encourager à prendre courageusement position et publiquement en comptant de nouveau sur la fidélité de Dieu, même face à la menace d'être jeté dans une fournaise. C'est ce que nous verrons dans un prochain message. Moi, c'est un passage qui m'a interpellé. Et j'ai relevé que notre première expérience avec Christ est déterminante pour notre croissance spirituelle. Quand on tourne le regard vers Christ, quand on est sauvé, on doit absolument vivre cette expérience avec Christ, libéré. Vivre cette proximité avec Christ, combien c'est un tremplin pour notre croissance spirituelle. Né de nouveau, on expérimente la marche avec Christ. Et en l'occurrence, ici, vous voyez, les jeunes adolescents, très tôt, ils ont vu la fidélité de Dieu. En 10 jours, l'embonpoint. Waouh, Dieu est fidèle. La puissance de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est capital, c'est déterminant. Vivre cette expérience, on est inévitable. On se sait dans les mains du Très-Haut. On l'a chanté entre tes mains. Ça se vit, c'est une réalité spirituelle que l'on vit avec l'Éternel. Et ces jeunes ados, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Ni la fournaise, ni la force au lion ne les avaient, on va dire, perturbés, ou en tout cas intimidés. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Quatrième point, élément important, donc de la grâce de Dieu, de l'intervention divine de Dieu. Donc, on le voit dans les versets 17 à 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Il ne s'en trouva aucun, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Encore une nouvelle intervention divine. Non seulement il permet leur réussite en 3 ans, dans cette haute administration babylonienne, 3 ans de formation, il leur permet aussi de se montrer plus brillants dans tous les domaines. Brillants par rapport à qui? D'abord par rapport aux autres étudiants juifs, de la déportation, mais aussi par rapport à leurs congénères babyloniens, et ceci même dans le domaine où ils se croyaient les plus forts, en particulier s'agissant de l'interprétation des rêves. Tout le royaume, quelle grâce, quelle excellence pour de jeunes adolescents. Ce chapitre termine par le verset 21 qui dit ceci. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, comme on dit dans les années 539 avant Jésus-Christ, la fin des 70 ans de déportation. Daniel a vécu toute cette période. Pendant des décennies, Daniel fera preuve de fidélité envers Dieu et Dieu de fidélité envers lui. Survivant à l'empire babylonien, il sera encore en vie en 537 à plus de 80 ans. Pour conclure ce premier message sur le livre de Daniel, nous en verrons d'autres. J'ai noté que Daniel décida de refuser tout compromis qui l'amènerait à se montrer infidèle à Dieu. Il usa de beaucoup de discernement et de tact par la grâce de Dieu. Le chrétien aujourd'hui est dans un monde hostile à sa foi, car le monde sert d'autres dieux. Le dieu de l'argent, le dieu du pouvoir, de la célébrité, et la liste n'est pas exhaustive. En effet, Dieu est très clair sur ces aspects. Plusieurs textes de l'Écriture le disent. J'en ai choisi ici un des textes. Quel rapport peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Texte tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 16. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est fondamentalement antinomique. Qu'y a-t-il entre le croyant et l'incroyant? Nul ne peut servir Dieu et maman. Autant d'illustrations qui nous rappellent les vérités bibliques, la volonté de Dieu pour les racheter. Et j'aimerais finir sur un dernier texte de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, qui nous rappelle en effet ceci, et qui nous en donne aussi les moyens, donc d'être en conformité avec Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin et que Dieu bénisse mon enseignement. Amen.